les jardinières.
On débute le mois le plus court de l'année et si vous vous demandez que faire au potager en février, eh bien vous êtes au bon endroit, bienvenue chez les jardinières. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Et avec nous jusqu'à 8h pour nous parler de légumes oubliés et répondre à vos questions jardinage, nous recevons Cathieu Racine. Bonjour Cathieu.
Bonjour.
Cathieu Racine, vous êtes guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. On peut suivre vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Et bienvenue à vous toutes et tous, on se lance dans une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Après la pluie de cette semaine, un temps sec et du soleil, ils sont au programme, enfin, et surtout de la grisaille. Du coup, Cathieu, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ces prochains jours?
On peut vraiment commencer à faire beaucoup de choses. Le terrain est un peu détrempé, donc c'est un petit peu problématique pour aller vraiment commencer de gratter le potager. Ce qu'on peut éventuellement faire maintenant, si on n'a pas fait d'apport dans le potager pendant cet hiver, on peut amener un petit peu de fumier. On trouve ça soit on peut en prendre un petit peu chez nos voisins agriculteurs, ou alors on peut acheter sous forme de granulés dans les magasins de la place. Et puis sinon, on peut commencer gentiment à enlever tout ce qui est sec autour du jardin. Si on a des anciennes plantes herbacées, si on a des petits arbustes, on peut commencer de tailler. Enfin, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Maintenant, ça sera plutôt des travaux de nettoyage que des travaux de plantation ou de semis proprement dit.
Merci Cathieu, vous êtes notre invité jusqu'à 8h. En seconde partie d'émission, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Appelez-nous au 0900 70 20 20 pour poser vos questions en direct à Cathieu. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question en remplissant le formulaire disponible sur notre site, ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez jardin un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
On se retrouve après la pause musicale. Nous parlerons de légumes oubliés et plus particulièrement de topinambours et de pâtissons.
7h, 8h, les jardinières.
Au menu des jardinières, ce matin, on vous propose des topinambours et des pâtissons. Ces légumes que l'on consommait autrefois et qui ont disparu de nos paniers, de nos assiettes et même parfois de nos mémoires. Cathieu, vous êtes jardinière et guide de randonnée nature. Ce matin, vous avez choisi de nous parler des topinambours. Mais alors, pourquoi justement le topinambour?
Parce que le topinambour, il y a pas mal de choses à dire sur lui. C'est vraiment un légume oublié. C'était des légumes qui étaient utilisés il y a très 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 longtemps. C'était des styles de pommes de terre, mais c'était vraiment pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc c'est quelque chose qui est parti de notre culture, mais qui revient en force ces dernières années. C'est un légume aussi qui a une culture facile. D'ailleurs, on l'appelle l'artichaut de Jérusalem, donc ça cible un petit peu le potentiel de cette plante. Il faut faire attention parce que c'est un invasif, donc ça, on en parlera aussi un petit peu plus tard. Mais chez nous, il est intéressant parce qu'il est résistant au gel. Il a des belles fleurs, donc il peut aussi très bien s'apprêter à être en décoration et non pas forcément que utilisé comme légume. Il a une conservation qui est facile. Une fois qu'il est récolté, il est excellent en cuisine. Donc pour moi, il a plein de qualités. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler.
Et puis alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce topinambour?
Le topinambour, donc c'est un bulbe, donc c'est quelque chose qui plante sous terre. Et puis moi j'aime bien à dire que c'est Monsieur Gingembre qui a rencontré Madame Pomme de Terre et puis qu'ils ont eu le coup de foudre. Et puis ils ont fait des bébés. Puis c'est ça ressemble à du gingembre et une pomme de terre, donc ça serait des bébés topinambours. Donc c'est un tubercule. Il est parfois un petit peu rosé, comme ça. Il est joli en plus quand on le sort de terre. Question couleur. Et puis qu'est-ce qu'il fait à peu près? 10 cm de long quand il est à maturité. Il est tout granuleux sur le dessus, donc il est joli uniquement par sa couleur, parce que le reste, si on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas forcément envie de le mettre dans des casseroles. Et puis il faut savoir aussi qu'au-delà de son tubercule qui est un peu particulier, il fait dans les parties aériennes à peu près 3 mètres de haut. Et puis, il a des jolies fleurs jaunes qui s'apparenteront un peu aux fleurs de tournesol. On a vraiment l'impression que ce sont des petits tournesols. La fleur est jaune tournesol et puis les feuilles aussi ressemblent beaucoup aux feuilles de tournesol.
Bah justement, vous disiez le topinambour, on dirait une patate avec des fleurs de tournesol. Mais il faut faire attention parce que ça n'appartient pas à la famille des pommes de terre.
Non, non, pas du tout. Justement, ça appartient plutôt à la famille des tournesols. D'ailleurs, il s'appelle Helianthus tuberosus. Helianthus, ce sont tous les tournesols. Donc, si une fois vous achetez un petit paquet de graines au magasin de tournesols, vous verrez, il y a marqué Helianthus, c'est le nom latin. Et puis, ben, c'est une plante herbacée vivace qui nous vient de l'Amérique du Nord et puis qui est gentiment arrivée à se faire cultiver en Europe. Comme je l'ai dit avant, c'est plus ou moins 3 mètres de haut, donc c'est quand même des fleurs qui sont imposantes, mais comme le tournesol d'ailleurs, parce que le tournesol vient toujours très très haut. Et puis la floraison, elle est environ de septembre à novembre chez nous, ça dépend un petit peu des gelées, mais disons, je pense que jusqu'à fin octobre, on peut avoir de jolies fleurs dans le jardin grâce aux topinambours.
Alors si on récolte les topinambours en ce moment, quelle est la meilleure période pour les planter ?
Le topinambour se plante vraiment à la saison du printemps. Il faut attendre que la terre se soit un petit peu réchauffée parce que c'est toujours important, quoi qu'on fasse dans notre jardin, d'avoir la terre qui n'est plus froide comme maintenant. Si on met quelque chose dans une terre froide, ça ne pousse pas, ça va végéter, ça risque de pourrir, d'attraper des maladies. Donc ça ne sert à rien de prendre trop d'avance. Il faut vraiment attendre que cette terre se réchauffe. Donc si vous allez sur internet, le printemps c'est toujours mars, avril. Chez nous, mars, avril, c'est encore pas du tout le printemps, en tout cas pas mars. Donc je conseillerais plutôt de les planter autour de avril, voire même au mois de mai.
Et puis Katiou, un topinambour, ça se plante comment? Vu que c'est un tubercule, on prend un topinambour, on le met en terre?
Presque. Alors on va prendre plusieurs tubercules, comme les pommes de terre hein, finalement. Et puis on va les planter environ à 10 cm de profondeur et puis espacer chaque tubercule de 50 cm à peu près pour vraiment leur laisser de la place quand ils vont pousser les parties aériennes. Entre les rangées, on va laisser plus ou moins 70 cm d'espace. Ça paraît énorme quand on plante, mais c'est vrai que quand on voit le développement après de la plante, on se rend compte que c'est important de laisser de l'espace toujours entre les plantes pour qu'il y ait une bonne aération. C'est des plantes qui sont un peu sujets à l'oïdium, donc plus il y a d'aération entre les plantes, plus le vent peut passer, moins il y aura de maladies. Et puis après, quand elles auront poussé à peu près à 30 cm, comme les pommes de terre, on va venir buter le pied. Ça veut dire qu'on va remonter la terre le long du pied pour éviter que les maladies ne s'attaquent au collet de la plante. Le collet de la plante, c'est la partie qui est entre la fin de la tige et le début des racines. C'est la partie la plus sensible de toutes les plantes. Donc on va vraiment mettre ce collet à l'abri de beaucoup de choses avec la terre. Et puis, ce qui est agréable avec le topinambour, c'est qu'il n'a pas besoin d'arrosage, sauf en cas de grande sécheresse. Donc c'est aussi une plante qui est vraiment, vraiment facile parce qu'on ne doit pas toujours être avec le jet derrière. Puis je trouve que c'est important de nos jours de ne pas utiliser de l'eau en surconsommation. Et puis il aime bien être bien exposé au soleil et puis avec un sol très riche. Donc il faut lui apporter un petit peu de compost par-dessus la terre. Et puis je pense que tout se passe bien. Si on met déjà ça en œuvre, c'est déjà pas mal.
Et puis, il ne faut pas oublier que le topinambour, c'est une plante vivace et on la plante une fois, on l'aura toute la vie.
C'est son seul défaut, je pense. C'est que c'est vraiment une plante invasive. Pour avoir une petite idée, 25 plantes de topinambour peuvent apporter 1000 tubercules. Donc, c'est vraiment une production énorme. Et si on a un tubercule dans le sol et puis qu'on bêche le sol ou qu'on le passe au motoculteur, en général c'est mieux de bêcher que de passer le motoculteur, mais voilà, si on le passe au motoculteur, on divise ce tubercule en 10 morceaux, ça va faire 10 plantes qui vont refaire un X tubercule. Donc attention, attention vraiment, quand on met un topinambour dans son jardin, soit on fait une barrière anti-racine comme tout le monde connaît maintenant depuis quelques années pour les bambous par exemple. Donc on va vraiment mettre dans le sol 30 cm de barrière anti-racine, anti-rhizome. Ou alors on peut aussi mettre dans les plates-bandes surélevées. Moi je trouve que c'est aussi une bonne solution maintenant. Il existe ces plates-bandes qu'on peut acheter ou faire soi-même. Donc on va vraiment canaliser ce tubercule, le contenir, le domestiquer finalement. Et puis après on peut aussi mettre, on peut très bien faire ça aussi dans des caissettes, dans des grandes caissettes. Enfin il y a plein de moyens de le faire. Mais il faut vraiment vraiment faire attention à la... C'est comme vous avez dit Brian. Oui exactement, un topinambour, on en a toute la vie dans son jardin.
7h, 8h, les jardinières.
On parle de légumes ce matin en compagnie de Cathieu Racine, guide de randonnée nature et jardinière. On parlait de topinambour il y a quelques minutes. Et Cathieu, vous aviez aussi envie de nous présenter un autre légume, le pâtisson. Alors, il a quoi de particulier, ce pâtisson ?
Le pâtisson, il est assez rigolo parce que si moi j'aime bien les légumes qui ont des formes un petit peu bizarres quoi. Le topinambour est une forme très bizarre. Le pâtisson aussi, c'est vrai que si on prend un étal de courges en automne, on a ces belles courges oranges bien rondes. Enfin voilà. Puis tout d'un coup on a ce pâtisson là au milieu qui est tout plat, blanc ou alors des fois vert, des fois un petit peu rayé, qui est tout dentelé, on dirait un peu une soucoupe volante. Et puis moi j'aime bien parce que j'aime bien ce qui est un peu différent. Et puis il faut tout consommer aussi, il ne faut pas manger que ce qui est joli. Hein. Et puis, c'est rigolo parce que ce matin, on a parlé du topinambour qui est l'artichaut de Jérusalem. Et puis, le pâtisson, on l'appelle l'artichaut d'Espagne. Donc, c'est assez drôle de voir que ces deux légumes portent finalement le même nom à la base.
Alors, le pâtisson, il est aussi moins connu que d'autres courges comme la butternut ou le petit marron. Est-ce que vous pensez qu'il mérite d'être plus cultivé ?
L'avantage avec le pâtisson, si on parle maintenant uniquement du potager et de la place qu'il va prendre, par exemple la courge, il faudra énormément de place pour qu'elle puisse se développer parce que pardon, c'est une variété qui est courante. Ça veut dire qu'elle va développer beaucoup de tiges, elle va aller se promener, elle court en fait. Et puis le pâtisson, il a une variété qui est non courante. Ça veut dire qu'il va pousser finalement comme la courgette. Il va se développer plutôt en hauteur, donc prendre moins de place. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est intéressant parce qu'on peut avoir une courge dans son jardin avec un petit espace, donc dans les micro-potagers, comme on appelle ça. Et puis en plus, il a un excellent goût. Il a un peu justement cette saveur d'artichaut, puis on peut en faire plein de choses. Donc je pense que c'est une variété très intéressante.
Et puis pour le cultiver, est-ce qu'il y a besoin de conditions particulières pour ce pâtisson ?
Il aime bien le soleil. Il faut faire attention un petit peu qu'il soit pas trop mouillé. Il faut surtout pas mouiller les feuilles. L'arrosage est un petit peu délicat avec le pâtisson. Sinon, des conditions particulières, non. On peut le planter en avril, soit en godet ou bien alors directement en pleine terre au mois de mai. Si on sème le pâtisson, il faut bien faire attention, la graine, il faut la mettre sur la tranche quand on sème, il ne faut pas mettre à plat, parce qu'elle germe sur le côté en général, donc elle aura beaucoup plus de facilité à germer si on pose la graine sur la tranche. Et puis justement, vu que c'est une variété qui est non coureuse, on peut la mettre dans un petit coin, bien ensoleillé, il n'y a pas vraiment de conditions particulières. Il faut juste faire attention à l'arrosage, là c'est un petit peu délicat, il faut bien doser.
Les jardinières.
Comme chaque samedi, nous parlons de jardinage jusqu'à 8h. Ce matin, nous sommes en compagnie de Cathieu Racine, guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. On peut suivre vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être là, Cathieu. Les légumes oubliés sont à l'honneur ce matin. On parle de topinambour et de pâtisson. Et puis bien sûr, Cathieu, après, vous répondrez aux questions de nos auditeurs.
Et pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20, et vous aurez la chance de parler en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site et joindre une photo à votre question. Ou alors nous écrire un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous l'envoyez au 939.
Alors Cathieu, vous nous avez expliqué que le pâtisson aimait bien les coins ensoleillés, qu'on va pouvoir les semer en godet en avril, en pleine terre en mai. On va parler un peu de l'arrosage de ces pâtissons, parce que vous avez dit, il faut être prudent. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ce qu'il y a, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même des climats qui sont un peu particuliers par chez nous. Tout d'un coup, on a 10 degrés au mois de juin, et puis après, on passe à 35 degrés une semaine après. Donc là, il faut vraiment faire attention de gérer cet arrosage, parce que le pâtisson est assez délicat au niveau de l'arrosage. Ça veut dire qu'il doit vraiment avoir un arrosage régulier. On ne va pas pouvoir se dire, il pleut, je ne lui donne rien. Après, il fait 30 degrés, il a assez d'eau, je ne lui donne rien non plus. Et puis tout d'un coup, c'est sec et puis on lui met 20 litres d'eau au pied. Donc ça, il ne va pas du tout apprécier. Donc l'idéal dans ce genre de plantation, c'est de pailler le sol, de mettre un petit peu ce qu'on a. On peut mettre soit des copeaux, soit de la paille, soit des feuilles mortes qu'on aura récupérées, qu'on aura broyées pour faire une espèce de paillis. Et puis, ça va permettre à la plante d'avoir un arrosage régulier, mais aussi une évaporation régulière. Il n'y aura pas ces grands coups de chaud sur le pied. Donc, ça va réguler un peu cet arrosage. Bien sûr qu'il faudra quand même surveiller que ça soit toujours un petit peu humide. Et puis, comme j'ai dit avant, il faut faire vraiment attention quand on arrose de ne pas mouiller les feuilles parce que les cucurbitacées sont très, très sujets à l'oïdium. L'oïdium, c'est cette espèce de champignon, c'est comme une poudre blanche qu'on voit apparaître sur les feuilles. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est fatal pour eux. Et puis, on peut juste, un petit tip en passant, on peut faire du purin d'ortie dilué à 15%. Et puis, on peut arroser régulièrement nos cucurbitacées avec ça. Et puis, ça va vraiment leur faire un renforcement au niveau des racines et puis de la plante qui est vraiment bénéfique.
Et puis, Cathy, comment est-ce qu'on sait quand le pâtisson est prêt pour la récolte ?
Le pâtisson, il peut se récolter à plein de stades de sa croissance. On peut le récolter très jeune, quand il a encore la fleur. On peut le mettre au vinaigre comme les cornichons. On va juste casser la fleur et puis on va le mettre au vinaigre. On peut le récolter jeune, ça veut dire un mois et environ une semaine après le semis, comme les courgettes. Donc c'est tendre, c'est très goûtu et puis il y a très peu de graines dedans, de grains. Alors on va pouvoir l'utiliser comme la courgette. Et puis on va pouvoir l'utiliser à maturité. Là, on va regarder, c'est un fruit qui va faire plus ou moins 25 cm de diamètre. Et puis, il sera venu un peu dur comme ça. Et puis là, on peut le récolter vraiment pour le mettre à la cave, pour la conservation. Donc, il y a vraiment ces trois stades où on peut récolter le pâtisson. Il n'a pas vraiment une date pile où on se dit, là, maintenant, il faut le récolter. On a vraiment plusieurs solutions.
Du coup, le pâtisson, ça se conserve vraiment comme une courge. Quand il est arrivé à maturité, on peut le laisser à la cave plusieurs mois, si c'est des bonnes conditions.
Oui, si c'est des bonnes conditions. Il faut vraiment les surveiller. Il faut pas que ça soit trop humide non plus dans les caves. Les anciennes caves sont super quand il y a encore de la terre battue ou comme ça. Sitôt qu'on voit apparaître des petits points sur la peau, il faut tout de suite les prendre et puis les consommer, les peler, les consommer. Parce que ça se garde bien, mais ça pourrit aussi très, très rapidement.
Cathieu, pourquoi les légumes oubliés, comme ce fameux pâtisson dont on vient de parler, ou le topinambour dont on a parlé en première partie d'émission, reviennent comme ça sur les étals des maraîchers ou dans les grandes surfaces ?
Mais je crois que les réseaux sociaux n'ont pas que du mauvais, parce qu'aujourd'hui on dit oui, les réseaux sociaux, nanana. Ben finalement, ça n'a pas que du mauvais, parce que c'est beaucoup arrivé par les réseaux sociaux. Les grands chefs ont commencé de recuisiner et de publier beaucoup de recettes ou nous montrer comment utiliser ces légumes. Donc je pense que les réseaux sociaux, les grands chefs, c'est une mode, c'est un nouveau goût, c'est des goûts qui sont plus très connus, qui reviennent. Ils sont cultivés chez nous cette saison. C'est plein de couleurs. Donc, je pense que ça a vraiment un grand succès aussi grâce à ça.
Bon, et puis après avoir planté nos légumes, on aime aussi les manger, bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut cuisiner un topinambour ?
Alors, une petite recette avec le topinambour, parce que le topinambour se mange cru, cuit. Donc, on peut faire une salade de nonnes, par exemple, j'aime bien ce nom, déjà je trouve ça assez rigolo, le salade des nonnes. Donc on prendra pour faire la sauce une cuillère à soupe de jus de citron, une pincée de sucre, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de crème, et puis on va mélanger tout ça pour faire une sauce à salade. Et puis à côté de ça, on va prendre une pomme un peu acidulée, on va la râper avec la râpe à rejeti, 300 g de topinambour cru, pelé, qu'on va aussi râper avec la râpe à rejeti, des betteraves rouges aussi, la même chose, on va râper ça, et puis on va tout mélanger ça avec notre sauce, et puis ça fera une excellente salade des nonnes.
Avec des petits cervelas, ça sera parfait.
Et par puis, exemple.
On a parlé d'une recette de topinambour, vous en avez une pour le pâtisson ?
Oui, alors le pâtisson, comme j'ai dit avant, il a vraiment une saveur d'artichaut. Et puis là, moi, j'aimerais bien parler du risotto à la crème de pâtisson. Donc en fait, on va faire un risotto, ça je ne vais pas vous donner la recette parce que tout le monde sait faire un risotto ou on trouve ça sur internet. Mais par contre, le pâtisson, on va le cuire dans l'eau entier, 15 à 20 minutes. Il faut savoir que la peau du pâtisson se mange, donc c'est aussi hyper idéal parce qu'on n'a pas du tout besoin de le peler. Et puis ensuite, on va le sortir de l'eau, on va le laisser refroidir et puis on va couper le chapeau dessus sur cette soucoupe volante. Ou alors on peut le couper directement en cubes, ça dépend un peu de ce qu'on a envie d'avoir comme décoration à la fin. Et puis la chair qu'on a enlevée dans ce pâtisson, on va le passer au mixeur avec de la crème, du sel et du poivre. Et puis ça va nous donner une espèce de pâte comme ça, un peu liquide. On va faire que ça soit assez liquide. Et puis au milieu du risotto, en fait, on va intégrer cette crème de pâtisson dans notre cuisson de risotto, puis cuire le risotto encore 8 à 10 minutes. Et puis là, après, ben, ça remplacera l'eau à la fin de la cuisson. Et puis à la fin, soit on peut garder justement notre pâtisson qu'on aura évidé pour mettre le risotto dedans, puis remettre le couvercle, c'est très très joli dans l'assiette. Ou si on a utilisé tout le pâtisson, eh ben, on n'aura plus de réceptacle et puis on mettra notre risotto simplement dans notre assiette. Mais je vous assure que c'est super bon.
7h, 8h, les jardinières.
7h48 chez les jardinières, nous sommes toujours en compagnie de Katiou Racine, jardinière et guide de randonnée nature du côté de Mervelier. On a quelques questions à vous poser, qu'on a reçues, des questions jardinage. Brian, je vous laisse l'honneur d'ouvrir cette foire aux questions.
Eh ben merci Mylène.
On va parler du sureau si jamais.
Exactement, notre sureau a beaucoup poussé et nous n'avons pas pris le temps de la tailler en automne. Peut-on le faire maintenant, même s'il y a déjà les premiers bourgeons ?
Oui, bien sûr. Le sureau est une plante qui, enfin, est un arbuste, c'est pas vraiment une plante, qui pousse, qui a une croissance très rapide, très forte, très solide. Donc, c'est justement maintenant la bonne saison pour faire ça, parce que oui, les bourgeons commencent de bouger, mais en fait, c'est quand même encore pas en train de bourgeonner proprement dit. On peut faire ça. Donc, l'idéal, si on a un sureau, c'est de le rabattre aux deux tiers de sa hauteur. Mais ça dépend toujours de la grandeur qu'il a. C'est clair que si c'est un petit sureau de 50 cm, on ne va peut-être pas lui enlever deux tiers, mais si c'est un sureau d'une taille adulte, on va enlever deux tiers de la hauteur. Et puis surtout, on va faire une sélection des branches. On va regarder que les branches qui sont cassées, anciennes, vraiment très vieilles branches, tout ça, on va pouvoir les enlever. Et on va le rééquilibrer surtout. Souvent, les arbres se déséquilibrent pour beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Et puis, on va essayer de redonner un équilibre à cette plante avec la taille. Et puis on peut encore faire une taille au mois de juin. Là, ce sera plutôt aussi une taille de formation. Ça veut dire que notre arbre, il sera en feuilles, et puis on peut le contenir, on peut le redescendre un petit peu. S'il commence de faire des trop grandes pousses, on peut rabattre, mais là, on fera une taille beaucoup, beaucoup plus légère.
Oui, sinon, on va perdre toutes les fleurs.
Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres arbres qu'on peut encore, dites-nous rapidement, qu'on peut tailler maintenant comme le sureau, ou il faut être un peu plus prudent quand même ?
Non, on peut tout faire maintenant. C'est vraiment idéal les plantes qui sont en repos hivernal, tout ce qui a la sève qui circule. Je ne sais pas, on prend un pommier par exemple. Maintenant, la sève ne circule que très peu parce qu'il est en repos hivernal. Donc, c'est l'idéal de tailler les arbres à cette époque-ci de l'année. C'est très très bien.
Les jardinières.
Il est 7h53 et c'est presque l'heure de se dire au revoir. Mais Katiou, avant de vous laisser filer, on a parlé de topinambour et de pâtisson ce matin, des légumes oubliés qui reviennent sur le dessus du panier. On retrouvera d'ailleurs vos conseils en podcast en cours de matinée sur notre site. Katiou, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ces jours, en ce début de mois de février. Je vais trouver mes mots. Voilà, on est début février, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Quand ils sont dans le bon ordre, les mots,
mieux,
ça va mieux.
C'est plus facile.
On peut commencer à faire gentiment ces semis, là. Alors, qu'est-ce qu'on sème maintenant ? Bien sûr, à l'intérieur, hein, parce qu'on ne va pas semer dehors pour le moment. On va pouvoir semer les aubergines, les poivrons, les piments, hein, toutes ces plantes méditerranéennes qui ont besoin de beaucoup de soleil. On les sème maintenant parce que, en fait, c'est des plantes qui ont une très longue durée de culture. Donc, on va commencer maintenant à semer ça en petits godets sur la fenêtre, un peu de soleil, 20-25 degrés de température ambiante. Et puis, quand ça germera, quand ça commencera de pousser, eh ben, ça sera d'ici un mois et demi, deux mois. On en reparlera.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut semer en ce moment, à part ces plantes méditerranéennes ?
Bon, on peut semer, on peut à peu près tout semer. Ce qu'il y a, par exemple, si on met maintenant ces tomates dans des petits godets puis qu'on met derrière la fenêtre, là, les tomates, à l'inverse des aubergines, poivrons et piments, les tomates poussent très vite. Donc, on va se retrouver d'ici 2-3 semaines avec des plantons qui font déjà 10 cm. Dans 2-3 semaines, on sera fin février. Puis, qu'est-ce qu'on fait de nos plantons? Donc, c'est toujours un peu le problème. Ne soyez pas trop pressés. Lisez bien sur vos semis la durée de germination, la durée de culture. Et puis, faites des petits calculs parce qu'on ne plante rien dans le jardin avant les saints de glace. C'est bien connu.
Merci beaucoup, Katiou. On rappelle que vous êtes guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. On peut suivre vos activités d'ailleurs sur les réseaux sociaux sous le nom Rendez-vous avec soi-même. Bon week-end et puis à bientôt chez les jardinières.
Bon week-end.
Merci Katiou. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie d'Élodie Chassot qui est fleuriste à Fleurier. On parlera entre autres des fleurs pour la Saint-Valentin qui approche. Il nous reste à vous souhaiter un tout bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et puis bon risotto au pâtisson. Et puis bon week-end à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés.